Bon, ce matin, on va parler d'un phénomène, Ray. Moi, ça me dépasse. Mais c'est comme cyclique. Je parle évidemment des cartes de hockey.
Cartes de hockey, là, c'est en lien avec celle d'Alexis Lafrenière qui est sur le marché depuis hier.
Bon, et on comprend, c'est le premier joueur repêché. C'est un francophone, c'est un Québécois. Quelle est la valeur présumée de la carte?
C'est une industrie qui est vraiment spéculative, Paul. C'est un peu dangereux. C'est un investissement à long terme parce que il y a des hauts et des bas dans ce marché-là de cartes de collection. Pour vous donner une idée, là, le marché de collection de cartes en Amérique du Nord pour le hockey, ça équivaut à peu près 25 millions de dollars. Tandis que celui du baseball est un marché de 300 millions de dollars. Fait qu'il y a une marge. Le hockey, évidemment, n'est pas aussi populaire que le baseball. Mais le baseball a ce côté-là historique, statistique, puis c'est un peu le passe-temps, entre guillemets, là, des Américains. Puis ça remonte à un sport qui a commencé même avant le début du 19e, du 20e siècle. Là. Alors, c'est pour ça que ça a une longue histoire. Le hockey avance et est en bonne croissance. Mais Paul, ce qu'on remarque aujourd'hui, à cause de la pandémie, c'est un changement complet. C'est une forte croissance de tout ce qui est dans la collection. Et pourquoi? Parce que les gens sont isolés à la maison. Il y a beaucoup de nostalgie. On a beaucoup de temps à dépenser. On a beaucoup d'argent discrétionnaire de divertissement qu'on dépense pas. Fait qu'on on le fait de façon spéculative sur de la collection. Puis en plus, on peut le faire virtuellement avec des amis et s'acheter ces choses-là, commander, recevoir à la maison. Fait que pendant qu'on est un peu en confinement, là, ben, on trouve d'autres façons de dépenser de l'argent qui nous reste dans nos poches. Mais littéralement, là, depuis le début de la pandémie, dans tous les sports, il y a une croissance dans le marché. Et particulièrement, depuis 2-3 ans, là, on dirait que les nouveaux arrivés dans le sport majeur ont créé une vague très positive dans ce sens-là.
Je vais te parler de trois générations. D'abord, la mienne. Moi, j'en ai acheté des cartes d'hockey. De mm-hmm. J'avais des boîtes, puis la fameuse gomme rose, puis... Tu te débarrassais de la gomme parce que tu voulais avoir la carte, là. Mais il n'y avait pas un enjeu de collection ou de donner de la valeur. Tu étais content d'avoir les cartes de tes joueurs préférés, puis bon.
C'était pas une activité commerciale,
non.
Disons.
Avec mes fils, moi, je suis allé dans des salons de cartes de hockey à Longueuil, je me souviens, sur le bord de la 132.
Tout à fait.
Puis j'ai acheté des cartes pour mes gars, là, puis payé 20$ pour une carte, 25$, là. Tu sais, au début, tu fais un peu le saut. Puis là, après ça, on dirait que ça s'estompe, puis oups, ça revient, comme tu dis, peut-être depuis 3 ans.
Oui, puis effectivement, quand on était jeune, on achetait des paquets de cartes pour 25 sous,
ben
et
oui.
Ainsi de suite, puis il y en avait 4-5 dedans. Puis comme la plupart des individus, quand on retourne voir nos parents, là, 30 ans après, nos mères ont toutes jeté les cartes.
Ben oui.
fait que là, on se retrouve littéralement avec des... ce qu'on cherche, là, qu'on pensait qu'on avait de la valeur comme investissement, étant tout jeune, ben c'est tout perdu. Puis c'est un drôle de phénomène, parce que c'est... L'avantage des cartes, Paul et Alain, vis-à-vis d'autres types de pièces de collection dans le sport, tu sais, si tu mets une carte versus un chandail au même prix, moi, je prends le chandail. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus palpable, c'est beaucoup plus concret et réel. Mais la difficulté des chandails vis-à-vis des cartes, c'est que les cartes sont dans un registraire. Elles sont « gradées », si tu me permets l'expression en anglais. Elles sont cotées, évaluées. Et cette évaluation-là, ça ressemble à évaluer un diamant. Donc, une fois que c'est évalué, tu sais ce qu'elle vaut en termes de liquidité. Donc, tu as moins besoin d'être un expert pour collectionner des cartes que pour collectionner un chandail ou un trophée ou un bâton, parce que là, il y a beaucoup de caractéristiques puis de nuances dans ce marché-là. Mais les cartes, c'est facile parce que il y a pas des catalogues, là, mais des annuaires, si on veut, là, qui te permettent de suivre le marché puis de savoir qu'est-ce qui est disponible puis qu'est-ce qui a été vendu. Je vais vous donner deux exemples. La carte recrue, puis je reviens sur le mot recrue. Quand une carte est la première pour un joueur, et c'est pour ça qu'il y a une frénésie autour d'Alexis Lafrenière, c'est parce que dès sa deuxième année, la carte a peut-être diminué de 60-70% d'un seul coup. Parce qu'on veut la première. Mais là, Alexis Lafrenière, dans son cas, il faut qu'il y ait une grosse carrière pour que sa carte de hockey prenne beaucoup de valeur. Mais on le sait 10 ans après. Quand on regarde aujourd'hui la carte de LeBron James, la plus récente a été vendue en juillet dernier, 1,8 million de dollars pour sa carte recrue. La recrue de Michael Jordan, 1,78 million, à peu près le même prix. Et dans toute l'histoire des cartes de collection, celle qui a toujours attiré l'attention, c'est une carte qui s'appelle la T-206 de Honus Wagner, qui jouait pour Pittsburgh au début du 20e siècle. Puis cette carte-là avait atteint un niveau inespéré de 3,2 millions de dollars, jusqu'à temps qu'au mois d'août dernier, Paul, Mike Trout, qui est arrivé comme recrue dans le baseball en 2009, sa carte a été vendue à cause de la pandémie, 3,25 millions de dollars.
OK, mais qui achète ça là à ces prix-là? Un tableau, là, tu dis OK, il y a un marché de la revente ou des gens qui sont très riches qui collectionnent, mais acheter une carte d'Honus Wagner, là, que c'est pas là.
Mais c'est parce qu'on pense qu'il y en a comme 10 ou 20 dans le marché seulement. Comme on voyait dans l'article au sujet des vendeurs à Québec, c'est qu'il y avait peut-être seulement 10 de ces cartes-là, le format glossy, c'est-à-dire un format reluisant, là, qui était disponible dans le monde. Mais tu sais, Paul, le problème, là, c'est qu'il y a eu une vague où il y a eu trop de cartes et trop de cartes de grands joueurs. Fait que là, ça dilue la valeur tout de suite. Quand on sait qu'il y en a juste quelques-unes. Mais là, en plus, il y a Fleer, il y a Topps, il y a Upper Deck, il y a Panini, ils font toutes des cartes. Fait que t'as 6-7 manufacturiers de cartes aussi qui en distribuent dans le marché. Fait que là, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est très spéculatif
et
dangereux.
Est-ce qu'il y a des fausses cartes?
Il y a des fausses cartes, oui. Puis des fois, il y a des cartes qui sont de moins bonne catégorie ou de moins bonne production qui diluent encore une fois le marché. T'as l'impression, oh, c'est une carte recrue, tu connais pas trop ça, tu t'en vas la chercher. Puis finalement, elle vaut pas plus cher que ce que t'as payé. T'sais? Mais il faut toujours être très prudent là-dedans. C'est une expertise d'être collectionneur. Racheter, comme les gars veulent racheter tout de suite la carte à coût de 10 000 $ ben c'est un risque calculé aujourd'hui. Si Lafrenière devient une légende du hockey, ça va être un bon investissement.
Mais là, c'est toutes ces compagnies-là que tu nous as nommées, là, ils ont toutes des ententes avec les circuits professionnels en Amérique?
Ils ont des licences, Alain. Alors, quand tu as une licence pour produire des cartes avec une ligue, évidemment, les ligues sont contentes d'avoir plusieurs licences parce que c'est beaucoup d'argent qui rentre pour eux, ils reçoivent une commission. Mais cet argent-là qui est perçu en termes de royauté est divisé entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale, évidemment, ou tous les sports, parce que ça fait partie des revenus totaux liés au hockey. Alors ça, c'est bon pour tout le monde dans cette industrie-là. Les fabricants de cartes en vendent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de demandes, puis il y a une croissance, mais les joueurs et la Ligue reçoivent cet argent-là indirectement. Là, c'est pas nécessairement un chèque pour une carte, mais ça fait partie des royautés. On avait fait une série de collections de 200 quelques cartes avec le centenaire des Canadiens. Là. On avait eu l'autorisation des joueurs. D'ailleurs, plusieurs des cartes aujourd'hui qui prennent beaucoup de valeur, comme celle de Mike Trout, c'est parce qu'elle est signée en plus. Et elle a une cote, je pense, de 9,5 sur 10. Alors, c'est sûr que c'est A++++, puis elle vaut beaucoup d'argent. Mais des fois, on rajoute des valeurs de plus comme un morceau du chandail imbibé dans la carte.
Avec la goutte de sueur.
Non, mais littéralement, Paul, tu pourrais penser à des choses comme ça, puis ça rajoute la valeur, puis de l'exclusivité et de la rareté. Et c'est ça que les collectionneurs recherchent.
Merci, Harry. À demain.
À demain, messieurs.
8h31. Je me souviens quand je suis allé à l'exposition avec les deux gars, là. Il y a un gars qui me disait, « Monsieur Arquin, quelque chose pour vous. » Ah, il dit...
Ta carte recrue à Saint-Hyacinthe?
Non. Il dit, je mets pas ça au comptoir, là, je garde ça pour les connaisseurs. Tu sais, sous-entendre des poissons comme toi. Mais... il dit, regarde ça ici, j'ai un Roger Crozier. C'était pas une carte recrue. En tout cas, là, il me met ça. Puis tu sais, c'était comme glissé entre deux morceaux de verre, là. Tu sais, comme un petit trépied, là. Bon, pas un trépied, là, un pied, là.
Ouais.
C'est ça. Là, tu comprends-tu que mes gars, Roger Crozier, là, zéro intérêt, là. C'est... Bon, regardez, on regardait en l'an. Moi, j'achetais pas ça pour moi tellement, là. Fait que je dis, monsieur, tu passes à côté d'une aubaine. C'est incroyable. Il a repris son Roger Crozier puis il l'a caché dans le tiroir.
En attendant le prochain poisson.